Bonsoir à vous depuis Abidjan, Kinshasa ou N'Djamena et Kavado avec vous depuis le studio 9 de la Voix de l'Amérique où il est 18h05 en temps universel et 14h05 ici à Washington. À votre avis, se penche ce mercredi 18 avril sur la corruption dans le sport. Le président de la Fédération Congolaise de Football, Association FECOFA, Constant Omari et trois autres dirigeants sportifs de la République démocratique du Congo ont été placés en garde à vue à Kinshasa par la justice congolaise suite à une affaire d'utilisation de fonds publics. Alors, ce n'est pas un cas isolé. Pourquoi la corruption est-elle présente dans le football et dans le sport en général? Nous allons débattre pendant près de 30 minutes et si vous voulez participer, c'est encore possible en appelant le 001 202 205 26 33. Alors, nous avons avec nous pendant toute l'émission plusieurs experts, notamment avec Hubert Benguet, directeur de publication du quotidien sportif Record. Vous êtes à Dakar, bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Ça va et vous?
Alors, je vais bien. En RDC, l'affaire fait grand bruit. L'affaire fait grand bruit et vous, on aimerait avoir votre regard depuis Dakar sur cette affaire.
Oui, bon, il faut dire déjà regretter que ce ne soit pas une nouveauté en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne, des cas de corruption dans le sport, dans le football particulièrement. Mais il est déjà bon que les pouvoirs publics prennent des mesures par rapport aux fonds revenants. Et moi, j'accueille. Bon, je vois ça de très bon avis.
Alors, vous dites que ce n'est pas un cas isolé. Effectivement, il y a très peu de temps, il y a eu une histoire en Égypte avec un contrat $1 milliard, avec la guerre d'Air Sport et la présentation d'opposants qui ont demandé à ce que ce soit, qu'il y ait des choses différentes. Est-ce que vous avez d'autres exemples à donner pour faire un état des lieux de la situation des différentes corruptions à travers l'Afrique?
Oui, disons, je peux donner l'exemple de mon pays, le Sénégal, en 2002, après la Coupe du Monde de football,
oui,
en Corée au Japon, il y a eu une suite judiciaire par rapport à la gestion des fonds générés par ce mondial-là, les fonds alloués par la FIFA. Donc la gestion a été décriée et qui a même eu des responsables qui ont été traînés en justice et certains ont même eu à faire la prison. Il faut également noter que la corruption est quasi permanente dans les compétitions interclubs surtout. Dernièrement, ce sont il n'y a pas longtemps, je crois, un match qui a opposé Plateau United du Nigeria à l'équipe algérienne doucement. Donc, il y a eu, disons, une tentative de corruption sur l'arbitre sud-africain.
Tout à fait, c'est très récent.
Donc, ça.
Alors, par rapport à ces nombreux exemples, il y a des auditeurs donc, qui écrivent sur notre toile aussi par rapport à ce problème de financement. Le sport n'a pas toujours de grands financements. C'est souvent l'État qui finance et pas forcément les fédérations qui n'ont pas forcément assez dans leur caisse. Est-ce que le fait d'avoir plus d'argent peut permettre d'avoir moins de corruption? On a l'exemple dans votre pays, justement, avec toutes les personnes sélectionnées pour partir donc en Russie pour la Coupe du Monde, 20 millions de francs CFA, c'est quand même une grosse somme et c'est pas souvent que cela arrive dans les pays africains. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, je pense que concernant les joueurs, les pratiquants, je crois que c'est quelque part normal qu'ils puissent bénéficier de cet argent-là. Maintenant, pour tous ceux qui gravitent autour, les dirigeants, les responsables, etc., etc., tout ce beau monde-là qui essaye de profiter de cet argent-là, moi je pense que...
Alors votre exemple est vrai, il y a souvent des délégations qui doivent partir des fois à 20, 30 et qui vont avec le double, voire le triple pour profiter. Restez avec nous, on va donner la parole à une autre spécialiste. Il s'agit de Charlotte Eyoum qui est fondatrice du site internet Sport au Féminin. Bonsoir Charlotte.
Bonsoir, bonsoir aux auditeurs.
Alors, est-ce que vous pouvez nous faire part de peut-être votre regard camerounais et l'expérience camerounaise? On se souvient du Cameroun avec des équipes qui ont pu se rendre dans des Coupes du Monde avec des maillots écrits au stylo, faute d'argent. Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec les auditeurs concernant la corruption?
Oh là là, j'ai d'abord envie de dire que la corruption est inhérente à nos sociétés et pas seulement africaines. Vous savez que l'argent généré par le football est colossal. Et donc c'est un milieu qui attire autant les vautours que les autres. On en a pour preuve l'instauration des différents comités de normalisation qui prouvent quand même qu'il y a beaucoup de soucis dans la gestion de nos fédérations de football, dans la gestion du football même de façon globale. Et les problèmes ne sont pas seulement administratifs, donc ils sont aussi financés. Alors, on va peut-être pas revenir encore sur le cas de Constant Omari, voilà, puisque c'est une affaire en cours, c'est difficile d'affirmer quoi que ce soit.
Tout à fait.
Il est toujours préférable de mettre quelques réserves puisqu'il y a une instruction qui est en cours. Mais j'aimerais dire que ce qui est reproché aujourd'hui à la Fédération congolaise de football, c'est un problème qu'on retrouve aussi souvent, voilà, on a souvent retrouvé au Cameroun, c'est-à-dire que si on prend le cas du Cameroun qui est aujourd'hui géré par un comité de normalisation, les raisons pour lesquelles celui-ci a été instauré, c'est parce que voilà, il y a des soupçons de corruption, que l'on reproche quand même certaines choses aux personnes, aux administrateurs de la fédération, puisque le football est à la fois financé par la FIFA mais aussi par l'État camerounais à travers le ministre des Sports. Donc officiellement, la FIFA reçoit des montants de l'État, mais elle reçoit aussi des montants de l'instance fêtière mondiale, autant que voilà, l'instance fêtière africaine. Donc, quand on décide de remettre en cause la gestion de la fédération, il ne s'agit pas seulement d'un seul individu, c'est bien évidemment toute la gestion de façon globale, de toutes les personnes qui prennent part. J'ai envie de revenir très rapidement, par exemple, sur les raisons de l'instauration, par exemple, d'un comité de normalisation. Donc, on a eu un réel scandale déjà avec des élections très controversées, par exemple en 2013, qui avait sonné le gars Dia Mohamed, qui avait été réélu président de la FIFA. On se souvient aussi d'une autre candidate, par exemple, à l'élection, qui était Marlène Andretto, qui par la suite avait accusé même d'autres membres de l'Assemblée générale de la FECAFOOT d'escroquerie. Donc, selon elle, il y avait des membres qui lui avaient demandé de l'argent afin de voter pour elle, mais au final, voilà, ils n'avaient pas respecté leurs paroles. Donc, en fait, j'ai juste envie de dire qu'il y a toujours beaucoup de vautours où il y a de l'argent. Et le football génère beaucoup d'argent.
Alors, restez avec nous, Charlotte. On va donner la parole à un auditeur qui souhaite intervenir. Avant de lui donner la parole, je vais lire un commentaire de Yacinthe Tuité. Il explique que la problématique de la corruption dans le sport est multidimensionnelle et il est fort dommage de constater qu'elle a atteint des proportions inquiétantes dans le football. Si en Europe, elle réside entre autres dans la manipulation des matchs, en Afrique, l'inexistence de l'état de droit ouvre la voie au détournement des fonds public. Qu'en pense Brahima Doumbia? Bonsoir.
Bonsoir à tous, bonsoir à tous.
Alors vous, quel est votre regard sur ce problème de corruption dans le sport?
Ce problème de corruption dans le sport ne m'étonne pas, puisque depuis le haut sommet, quand j'ai dit au sommet, la FIFA, on s'en souvient de l'affaire Blatter et Platini tout récemment. Plus précisément le cas de la RDC, cela quand même me surprend un peu, vu le contexte surtout de mon point de vue. C'est un pays qui aujourd'hui fait face à une crise et les dirigeants de cette fédération de football quand même devraient penser à cela. C'est l'argent du contribuable en quelque sorte qui est mis en jeu, puisque ce sont eux qui sont aujourd'hui les gestionnaires. Je pense que si l'argent du contribuable est à leur disposition, quand même, ils devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour bien gérer. Mais malheureusement, la corruption y est. Et je pense que la solution, quand même, c'est de peut-être mettre un système d'audit, de mon point de vue, au sein de la fédération africaine, puisque quand un président est élu ou nommé en quelque sorte à la tête d'une fédération, il pense qu'il est intouchable. Il pense qu'il est intouchable, même quand il doit être évincé.
il fait tout quand même aussi pour faire élire un de ses proches, pour que ce dernier aussi puisse continuer la danse. Je pense que la corruption dans le monde du football, cela ne va pas s'arrêter maintenant, mais quand même, il faut trouver une solution à cela.
Merci beaucoup. On retient donc, Brahima Doumbia, un système d'audit, c'est votre proposition. On vous souhaite une excellente soirée. On va tout de suite entendre l'avis de Steve Boko, qui est donc en Côte d'Ivoire. Bonsoir.
Oui, bonsoir, madame la journaliste.
Comment allez-vous?
Oui, je vais très bien.
Alors, vous, quel est votre... Pardon?
Je dis pour ma part, je dirais tout simplement que la corruption, vraiment la corruption, est plus vieille que l'humanité d'abord. Mais plus les dirigeants ou la juridiction a eu à repérer ce président, je pense très bien qu'on doit lui attribuer la loi qu'il nous faut. Parce que dès qu'ils accèdent à certains postes, ils pensent qu'ils ont le privilège de glaner, certaines choses, ressources des uns pour pouvoir faire passer l'autre à catimini, c'est-à-dire la corruption en un mot. Donc pour cela, je demanderai à la justice de mieux saisir pour qu'il donne le sang au PD ou aux successeurs qui viendront bientôt. Sinon, cela a fini le nom du football énormément.
Merci beaucoup, Steve Boko, de partager avec nous votre point de vue. On va tout de suite prendre la direction d'un petit village qui s'appelle Sonikeni au Mali avec notre fidèle auditeur, Jara Kanyoumé. Bonsoir.
Oui, bonsoir, Etia. Bonsoir à tous les plateaux et nos millions d'auditeurs de VOA.
Alors, notre heureux marié, quel est votre point de vue sur le sujet du jour?
Ok, merci de me donner la parole, Etia. À mon avis, je pense que vraiment d'aujourd'hui, pour lutter contre la corruption dans le monde, il faut que vraiment les dirigeants d'un pays doivent prendre leurs responsabilités. Sinon, il faut imaginer que si on dit pour lutter contre la corruption, mais si les dirigeants même sont en train de faire la corruption, pourquoi on peut trouver la source? Sinon, à mon avis, je pense qu'un pauvre ne peut pas faire la corruption, mais si on te donne une poste pour gérer, donc je pense que vraiment les peuples ont confiance de te nommer pour gérer cette poste, mais quand tu es venu, tu es en train de remplir ton poste, tu es en train d'oublier la gestion du pays. Donc, à mon avis, je pense que vraiment, même tout récemment, on a vu les cas des présidents sud-africains, donc Jacob Zuma. Donc, à mon avis, je pense que vraiment, il faut que non, les dirigeants même prennent leurs responsabilités pour créer une loi, pour que non, tout le monde n'a pas arrêté la corruption en Afrique, même en Europe. On a vu même le cas de Blatter. Donc, à mon avis, je pense que la corruption est là. Ce n'est pas d'aujourd'hui, mais il faut que nous pensions à nous, les peuples, pour que nous, l'économie du pays soit augmentée. Sinon, à mon avis, je pense que vraiment, si ils sont en train de voler l'argent des contribuables, je pense que vraiment, le pays sera en chaos, à mon avis.
Merci beaucoup, Jara Kanyoumé. On vous souhaite une excellente soirée. Avant qu'on nous donne la parole à un autre journaliste sportif de Guinée, Tcherno Saïdou Djakité, je vais vous lire un commentaire que j'ai recueilli donc, sur notre page VOA Afrique. Il s'agit d'Ivan Placide Eto, donc, qui est en RDC. Pour lui, tous ceux qui collaborent avec Katumbi sont considérés comme des ennemis par le régime en place. Ils veulent nous faire croire que c'est seulement aujourd'hui qu'Omari et sa bande ont détourné. Il est bon de lutter contre la corruption, mais il faut le faire dans tous les secteurs, sans distinction d'appartenance politique. Alors, qu'en pense Tcherno Saïdou Djakité? Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez pu écouter des avis assez divergents. La corruption n'est pas liée à la RDC uniquement, hein. On a eu des exemples partout et je sais même qu'en Guinée récemment il y a eu un cas de corruption, c'est bien ça?
Bon, disons que la procédure est en cours. Vous savez que l'année dernière, suite à des remous enregistrés au niveau du comité directeur de la Fédération guinéenne de football, un comité de normalisation avait été mis en place par la FIFA et la CAF. Et le 28 février 2017, une assemblée générale élective a mis en place un nouveau comité directeur. Donc le nouveau président, Mamadou Antono Soaré, a commandité un audit sur les trois dernières années du bureau sortant, c'est-à-dire de 2013 à 2016. Un audit a été commandité Et suite au résultat de ce doping, des poursuites judiciaires ont été intentées contre l'ancien président, Salif Sillah, qui est d'ailleurs en Europe et il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international.
Alors, j'ai envie de vous demander, tous ces mandats d'arrêt internationaux, vous semble-t-il justifiés ou est-ce qu'il y a des choses qui sont peut-être politiques ou extrapolées? Qu'en pensez-vous?
Non, c'est pas extrapolé. Ça n'a rien de politique parce que l'ex-président de la Fédération de football, il n'avait aucune fonction politique. Contrairement à Moïse Katumbi qui était député et président du club, non, l'ancien président de la fédération n'avait pas de fonction politique. C'est un mandat d'arrêt qui concerne strictement la gestion qu'il a eu à faire. Et donc il est en Europe. Tandis que l'ancien secrétaire général et le trésorier comptable de la fédération ont été incarcérés. Et ils sont sous contrôle judiciaire parce qu'ils ont payé une caution. Donc, on attend la suite de la procédure judiciaire qui est en cours actuellement.
Alors, restons très prudents vu que les affaires sont en cours. Par contre, est-ce que vous avez une idée de comment faire remédier au fait qu'il y ait de la corruption? Comment faire en sorte qu'il y en ait moins dans le sport, selon vous?
Comment faire en sorte? Je pense qu'il faut qu'il y ait pour prendre la bonne gouvernance, je pense qu'il faut des mécanismes de contrôle efficients de la gestion des fonds, par exemple, que la FIFA alloue aux fédérations nationales. Il y a aussi le fait que l'État accorde une part de subvention, mais surtout en matière d'infrastructures sportives. Donc je pense que c'est de mettre en place des mécanismes efficients de contrôle pour que les gens puissent, qu'on puisse assister à la reddition des comptes et que régulièrement des audits soient commandités et oui, qu'il y ait la transparence dans la gestion des ressources financières que les fédérations gèrent.
Merci beaucoup Tchernou Saïdou Djakité d'avoir participé à l'émission. On va donner la parole à présent à un journaliste sportif à Radio Futur Média à Dakar. Il s'agit de Youssouf Bodian. Bonsoir.
Bonsoir Etia et bonsoir à tous les auditeurs.
Alors vous, selon vous, votre regard, quelles seraient les différentes solutions pour éviter de tomber dans la corruption dans le sport?
À mon avis, il faudra revoir le mode de financement du sport, déjà tel que ça se fait en Afrique, parce que d'habitude, nos fédérations dépendent essentiellement de l'État, ce qui est contraire à ce qui se fait en Europe, où les fédérations ont quand même un certain nombre de moyens, sont donc autonomes. Mais ici, pour un match de l'équipe nationale, par exemple, les fédéraux attendent beaucoup de l'État qui finance pour les primes, mais aussi souvent qui met à la disposition peut-être de l'équipe l'avion du président, des choses comme ça. Tant qu'il y a cette dépendance des politiques vis-à-vis donc de l'organisation du football, les fédéraux qui dépendent beaucoup des politiques, ça peut toujours poser problème parce que aussi souvent les fédéraux ne sont pas neutres, hein, sont des gens aussi qui dans leur vie active sont souvent dans la politique, c'est ça aussi en Afrique. Donc les problèmes politiques peuvent aussi avoir des répercussions sur la gestion du football. À mon avis, l'Afrique, le problème véritable, c'est la gestion des fonds. Parce que souvent, les gens ils mettent beaucoup d'argent, mais à la fin, où est mis l'argent et tout, personne ne sait. Et il n'y a pas de mécanisme hein, au niveau des fédérations, souvent, pour la plupart des fédérations, pour essayer de gagner de l'argent et d'être autonome, de ne pas dépendre des États. Parce qu'aussi en Afrique aujourd'hui, il y a d'autres priorités essentielles, hein, la santé, l'éducation, d'autres priorités. Donc l'État, quand il met de l'argent pour le sport, il faut que ce soit carrément de l'argent bien utilisé.
Alors restez avec nous, merci pour votre analyse. On va demander ce qu'en pensent Charlotte et Youm, qui est toujours avec nous depuis le Cameroun. Bonsoir.
Ah, bonsoir à nouveau.
Alors, vous avez pu entendre de différents avis hein, pour essayer, du moins d'éradiquer, c'est peut-être très optimiste, mais de faire en sorte qu'il y en ait de moins en moins. Qu'est-ce que vous pensez, vous, comme piste à suivre pour lutter contre la corruption?
Oui. Je partage l'avis hein, de la plupart des éditeurs et hein, des personnes qui ont apporté hein, leur, un peu d'eau au moulin tout à l'heure. C'est, serait bien quand même peut-être d'instaurer un appareil totalement indépendant voilà, qui va gérer hein, bien des aspects dans nos différentes fédérations. Je vais être très bref, par exemple, pour parler du cas de l'Africa Foot. Bon. On nous parle par exemple des pièces vides, des surendettements, des quasi-faillites, ce qui a entraîné par exemple l'instauration du comité de normalisation. Mais on peut s'inquiéter de la situation, sachant que le Cameroun par exemple est tenant du titre de la CAN Gabon 2017 et que cela apporte, génère quand même beaucoup de sous. Le Cameroun est également finaliste de la CAN féminine hein, qui a été organisée au Cameroun en 2016. Donc ça peut paraître surprenant qu'on nous dise par la suite que les caisses sont vides et qu'on ne nous dise pas concrètement comment l'argent a été utilisé. Donc si on a peut-être un lobby de la FIFA comme c'est le cas à l'heure actuelle, mais on est là à instaurer. On a décidé de nous faire un lobby que parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des soupçons de corruption et qu'on ne savait pas réellement comment l'argent avait été utilisé. Donc si on a un appareil totalement indépendant qui fait ce travail bien avant, c'est-à-dire qu'il travaille directement en collaboration avec les différentes fédérations, peut-être qu'on peut réussir à éradiquer cela. Mais ce n'est pas sûr, puisque la gestion de tel ou tel autre appareil, ça reste toujours entre les mains d'humains.
Oui, tout à fait. Alors, restez avec nous. On va quand même prendre l'avis de Traoré Abdoulaye, un auditeur qui est en Côte d'Ivoire. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Comment allez-vous?
Allô?
Oui, comment allez-vous?
Je vais très bien, madame.
Alors, vous, quel est votre avis sur le sujet du jour?
Comme je l'ai signifié, je pense que l'argent, l'amour de l'argent est la racine de tous ces maux, madame.
Ah, ça mérite d'être clair, précis. Mais du coup, il en faudrait plus, il en faudrait moins pour que ça puisse mieux se passer au niveau du sport?
Oh oui, parce que le sport est un domaine qui engrange beaucoup de finances. Tant les sponsors, les mouvements des joueurs et tout ça.
Donc là, on parle plus de football alors, hein, parce qu'il y a des sports qui n'en ont pas assez dans leur caisse. Mais si on parle de football, effectivement, il y a beaucoup de sous derrière. Du moins.
Écoutez, je vais vous prendre par exemple, je vais vous faire par exemple une confidence où lors de la Coupe du Monde au Brésil.
Oui.
L'équipe de Côte d'Ivoire y était.
Tout à fait.
Et la Côte d'Ivoire devait jouer contre le Japon.
Oui.
Et donc la délégation japonaise et ivoirienne devait échanger des cadeaux. Et figurez-vous que pendant qu'on échangeait les cadeaux, le président de la fédération ivoirienne n'était pas là dans les tribunes.
Vous avez la raison.
Allô?
Vous nous faites des petits scoops. Vous avez la raison de son absence.
Oui, il était en train de faire le supermarché de la ville, vous voyez, madame.
Ça n'engage que vous, hein, je précise, parce que là, on fait de grandes dénonciations ce soir.
Voilà, et donc, oui, ça c'est bien connu ici. Et donc, vous voyez, l'argent circule dans le football et quand la FIFA elle-même empêche les gouvernants de se mixer dans les affaires du sport, vous voyez que, évidemment, les dirigeants de football ont la latitude de disposer de cet argent comme ils le veulent.
Alors, en tout cas, on vous remercie d'avoir pu donner votre point de vue. On reste connecté avec notre site internet, donc qui est le www.voafrique.com. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions. Merci à tous nos invités. Merci à vous pour notre écoute et merci beaucoup à l'équipe technique. Dans quelques instants, une nouvelle édition Le Monde aujourd'hui.